Quatrième partie. Chapitre 31. Après avoir rompu avec Kurt, Ifemelu dit à Ginika : Il y avait un sentiment que je voulais éprouver et que je n'éprouvais pas.
Qu'est-ce que tu racontes ? Tu l'as trompé !
S'exclama Ginika en secouant la tête comme si Ifemelu était devenue folle. Franchement, Ifem, parfois je ne te comprends pas. C'était vrai. Elle avait trompé Kurt avec un homme plus jeune qui habitait son immeuble dans Charles Village et jouait dans un orchestre. Mais c'était également vrai qu'elle avait désiré, avec Kurt, ressentir certaines choses sans jamais y parvenir. Elle ne s'était jamais vraiment sentie elle-même avec lui. Beau, heureux, capable de façonner sa vie comme il l'entendait. Elle l'aimait. Elle aimait la vie excitante et facile qu'il lui offrait. Pourtant, elle résistait souvent au désir d'y apporter un zeste de rudesse, de bousculer son naturel enjoué, ne serait-ce qu'un peu.
« Je crois que tu es autodestructrice, » dit Ginika. « C'est pourquoi tu as laissé tomber Obinze comme ça, et maintenant tu trompes Kurt parce que d'une certaine manière, tu penses ne pas mériter d'être heureuse. Et maintenant tu vas me recommander des pilules contre le syndrome de l'autodestruction ?»
dit Ifemelu. « C'est absurde. »
« Alors pourquoi as-tu agi comme ça ?»«
C'était une erreur. Nous faisons tous des erreurs. Nous faisons tous des choses stupides. »
Elle l'avait fait en réalité par curiosité, mais elle ne le dirait pas à Ginika, car cela paraîtrait inconséquent.
Ginika ne comprendrait pas. Elle préférerait une raison grave et importante comme l'autodestruction.
Elle n'était même pas sûre que Rob lui plaisait, avec son jean déchiré, ses chaussures crasseuses, sa chemise de flanelle froissée.
Elle ne comprenait pas la mode grunge, cette idée d'avoir l'air miteux parce que vous aviez les moyens de ne pas l'être. C'était se moquer de la vraie misère. Il lui paraissait superficiel dans sa façon de s'habiller, mais elle était néanmoins curieuse de voir comment il serait, nu dans un lit avec elle. Ils firent agréablement l'amour la première fois. Elle était au-dessus de lui, bougeant d'avant en arrière, gémissant, tirant sur la toison de sa poitrine, se sentant délicieusement théâtrale. Mais la deuxième fois, lorsqu'elle entra dans son appartement et qu'il l'attira dans ses bras, une immense lassitude s'empara d'elle. Il respirait déjà lourdement quand elle s'extirpa de son étreinte et prit son sac pour partir. Dans l'ascenseur, elle fut submergée par le sentiment effrayant qu'elle cherchait désespérément quelque chose de solide et que tout ce qu'elle touchait se dissolvait dans le néant. Elle se rendit chez Kurt et lui raconta tout.
« C'était sans importance. Ce n'est arrivé qu'une fois et je regrette. »
« Arrête de plaisanter, » dit-il, mais elle comprit, en voyant l'incrédulité horrifiée qui assombrissait ses yeux bleus, qu'il savait qu'elle ne plaisantait pas. Il fallut des heures pendant lesquelles ils s'évitèrent l'un l'autre, burent du thé, mirent de la musique, vérifièrent leurs emails. Kurt à plat ventre sur le canapé, immobile et muet, avant qu'il demande « Qui est-ce ?» Elle lui dit le nom de l'homme, Rob. « Il est blanc ?» Elle s'étonna qu'il pose cette question, qu'il la pose si vite.
« Oui ?»
Elle avait vu Rob pour la première fois plusieurs mois auparavant dans l'ascenseur, avec ses vêtements peu soignés, ses cheveux mal lavés. Il lui avait souri et dit « Je vous vois de temps en temps. » Ensuite, chaque fois qu'il l'avait rencontré, il l'avait regardé avec une sorte d'intérêt nonchalant, comme s'ils savaient tous les deux que quelque chose se passerait un jour entre eux. La seule question était quand.
D'où sort ce connard ?
Elle lui dit qu'il habitait à l'étage, au-dessus de chez elle. Il s'était dit bonjour et rien d'autre, jusqu'à ce soir où elle l'avait vu revenir du magasin de vin et spiritueux. Il avait demandé si elle avait envie de prendre un verre avec lui, et elle avait fait une chose stupide, sur une impulsion.
« Tu lui as donné ce qu'il voulait, »
dit Kurt. Les méplats de son visage se durcissaient. C'étaient des paroles inhabituelles de sa part, le genre de remarque qu'aurait faite tante Uju, qui considérait le sexe comme une chose qu'une femme donnait à un homme à son propre détriment. Soudain téméraire, elle apporta une correction.
« J'ai pris ce que je voulais. Si je lui ai donné quelque chose, c'est accidentel. »
« Écoute-toi. Écoute ce que tu dis. » La voix de Kurt avait pris une intonation rauque.
Comment as-tu pu me faire ça? J'ai été tellement gentille avec toi. Ils considéraient déjà leur relation à travers le prisme du passé. C'était un mystère pour elle. Cette facilité de l'amour romantique a changé. La célérité avec laquelle l'être aimé devenait un étranger. Où l'amour s'enfuyait-il? Peut-être le véritable amour était-il familial, une affaire de sang, puisque l'amour des enfants ne mourait pas comme l'amour romantique. « Tu ne me pardonneras donc pas ?» dit-elle, mi-interrogative. « Salope !» fit-il. Il lança le mot comme un poignard. Il jaillit de sa bouche avec un mépris cinglant. Entendre Kurt dire « salope » d'un ton si froid paraissait irréel. Et des larmes gonflèrent les yeux d'Ifemelu à la pensée qu'elle en avait fait un homme capable de dire « salope » aussi froidement. Elle aurait souhaité qu'il ne puisse jamais dire « salope », quelles que soient les circonstances. Seule, dans son appartement, elle pleura toutes les larmes de son corps, recroquevillée sur le tapis du salon, qui était si rarement utilisé qu'il avait conservé l'odeur du magasin. Sa relation avec Kurt était ce qu'elle avait voulu, un couronnement dans sa vie. Pourquoi l'avait-elle détruite? Elle croyait entendre sa mère dire que c'était l'œuvre du diable. Si seulement elle avait pu croire au diable, en un être extérieur qui envahit votre esprit et vous amène à détruire ce qui vous est le plus cher. Elle passa des semaines à appeler Kurt, à attendre devant son immeuble de le voir sortir, répétant sans cesse à quel point elle regrettait, à quel point elle voulait tout arranger. Le jour où elle se réveilla en acceptant finalement que Kurt ne la rappelle pas, n'ouvre pas sa porte en dépit de ses coups redoublés, elle se rendit seule, en ville, dans leur bar favori. La barmaid, celle qui les connaissait, lui adressa un sourire aimable, un sourire de compassion. Elle le lui rendit et commanda un autre mojito, pensant que la barmaid conviendrait peut-être davantage à Kurt, avec ses cheveux châtains lisses comme du satin, ses bras minces, ses vêtements noirs étroits et sa propension à bavarder gentiment, sans discontinuer. Elle serait fidèle avec la même constante gentillesse. Si elle avait un homme comme Kurt, elle ne s'amuserait pas à s'envoyer un inconnu qui jouait une musique discordante. Ifemelu fixa le fond de son verre. Il y avait un truc qui ne tournait pas rond chez elle. Elle ne savait pas quoi, mais quelque chose clochait. Une avidité, une impatience, une connaissance imparfaite d'elle-même, le sentiment qu'il existait un ailleurs hors de sa portée. Elle se leva et laissa un bon pourboire sur le comptoir. Longtemps, son souvenir de la rupture avec Kurt resta celui-ci. Elle était dans un taxi qui roulait à vive allure le long de Charles Street, un peu ivre, un peu soulagé, un peu esselé, avec un chauffeur du Punjab qui lui racontait fièrement que ses enfants réussissaient mieux que les enfants américains à l'école. Quelques années plus tard, lors d'un dîner à Manhattan, le lendemain du jour où Barack Obama était devenu le candidat du Parti démocrate à l'élection présidentielle des États-Unis, au milieu d'invités qui étaient tous de fervents supporters d'Obama, les yeux embués par le vin et la victoire, un blanc au crâne dégarni déclara « Obama mettra fin au racisme dans ce pays !» Et une élégante poétesse haïtienne aux hanches imposantes acquiesça, hochant la tête, sa coiffure afro plus volumineuse que celle d'Ifemelu, ajoutant qu'elle vivait avec un blanc depuis 3 ans en Californie et que la race n'avait jamais été un problème pour eux. « C'est de la blague ?» dit Ifemelu. « Comment ?» dit la femme comme si elle n'avait pas bien entendu. « C'est de la blague !» répéta Ifemelu. Les yeux de la femme lui sortirent de la tête. « Vous êtes en train de m'expliquer ce que moi j'ai vécu ?» Bien qu'Ifemelu eût compris à cette époque que les gens comme cette femme disaient ce genre de choses pour mettre tout le monde à l'aise et pour montrer quel chemin nous avons parcouru, et bien qu'elle fût à présent parfaitement intégrée au cercle des amis de Blaine, dont l'un était le nouveau compagnon de cette femme, et qu'il eût été préférable de laisser tomber la discussion, rien n'y fit. Ce fut plus fort qu'elle. Les mots, une fois de plus, la dépassèrent. Ils forçaient le passage, se bousculaient. Si vous dites que la race n'a jamais été un problème, c'est uniquement parce que vous souhaitez qu'il n'y ait pas de problème. Moi-même, je ne me sentais pas noire. Je ne suis devenue noire qu'en arrivant en Amérique. Quand vous êtes noire en Amérique et que vous tombez amoureuse d'un blanc, la race ne compte pas tant que vous êtes seule, car il s'agit seulement de vous et de celui que vous aimez. Mais dès l'instant où vous mettez le pied dehors, la race compte. Seulement nous n'en parlons pas. Nous ne mentionnons même pas devant nos partenaires blancs les petites choses qui nous choquent et ce que nous voudrions qu'ils comprennent mieux, parce que nous craignons qu'ils jugent notre réaction exagérée ou nous trouvent trop sensibles. Et nous ne voulons pas les entendre dire « Regarde le chemin que nous avons parcouru, il y a seulement 40 ans, nous n'aurions pu former un couple légal, blablabla. » Parce que vous savez ce que nous pensons quand ils disent ça? Nous pensons « Mais putain, pourquoi cela aurait-il dû être illégal de toute façon ?» Mais nous nous taisons. Nous laissons tout ça s'accumuler dans nos têtes et quand nous assistons à de sympathiques dîners progressistes comme celui-ci, nous disons que la race n'est pas un problème parce que c'est ce que nous sommes censés dire, pour que nos sympathiques amis progressistes ne soient pas perturbés. C'est la vérité, je parle d'expérience. L'hôtesse, une Française, jeta un coup d'œil à son mari américain avec un sourire narquois de satisfaction. Les dîners les plus réussis étaient ceux où les invités faisaient des déclarations imprévues et potentiellement agressives. La poétesse secoua la tête et dit à la maîtresse de maison « J'aimerais emporter chez moi un peu de ce merveilleux guacamole, s'il vous en reste. » Et elle regarda l'assistance comme s'il lui paraissait impensable qu'il puisse véritablement écouter Ifemelu. Mais il l'écoutait, en silence, les yeux rivés sur elle comme si elle était sur le point de dévoiler un secret salace qui les exciterait et les compromettrait. Ifemelu avait bu trop de vin blanc. Elle avait l'impression de flotter, et par la suite elle enverrait des emails d'excuses à la maîtresse de maison et à la poétesse. Mais tout le monde l'observait, même Blaine, dont pour une fois elle ne pouvait pas déchiffrer exactement l'expression. Et c'est ainsi qu'elle se mit à parler de Kurt. Ce n'était pas qu'ils évitaient le sujet, Kurt et elle. Ils en parlaient de cette manière évasive qui n'admettait rien, n'engageait à rien et se terminait par les mots « c'est dingue ». Comme une curieuse pépite qu'on examine avant de la repousser. Ou avec des plaisanteries qui lui laissaient une vague impression de malaise qu'elle n'admettait jamais devant lui. Non que Kurt prétende qu'être noir ou blanc en Amérique soit la même chose. Il savait que ce n'était pas le cas. Ce qu'elle ne comprenait pas, c'est qu'il puisse saisir parfaitement une chose mais soit complètement sourd à une autre similaire, et que son imagination soit si vive dans certains cas, mais paralysée dans d'autres. Avant le mariage de sa cousine Ashley, par exemple, il l'avait déposée dans un petit institut de beauté près de sa maison d'enfance pour qu'elle se fasse épiler les sourcils. Ifemelu était entrée et avait souri à l'Asiatique derrière le comptoir. « Bonjour, je voudrais me faire épiler les sourcils. » « Nous ne faisons pas les sourcils frisés comme les vôtres, » dit la femme. « Vous ne faites pas les sourcils frisés ?»« Non, désolé. » Ifemelu adressa à la femme un long regard insistant. Pas la peine de discuter. S'il ne le faisait pas, il ne le faisait pas, quoi que cela puisse signifier. Elle appela Kurt et lui demanda de rebrousser chemin et de revenir la chercher parce que le salon ne faisait pas les sourcils frisés. Kurt entra, ses yeux bleus encore plus bleus, et dit qu'il voulait parler à la direction sur le champ. « Vous allez vous occuper des sourcils de mon ami, sinon je fais fermer votre boutique. Vous ne méritez pas d'avoir une licence. » La femme se transforma aussitôt en un modèle de charme et d'empressement. « Oh, je suis vraiment désolée, c'était un malentendu, » dit-elle. Oui, bien sûr, il pouvait s'occuper de ses sourcils. Ifemelu n'en avait plus envie, craignant que la femme l'ébouillante lui arrache la peau, la pince. Mais Kurt était trop indigné, frémissant de colère dans l'atmosphère raréfiée du salon, et elle se résigna à s'asseoir, tendue, tandis que la femme lui épilait les sourcils. Sur le chemin du retour, Kurt demanda « Et en quoi tes sourcils sont frisés d'abord? Et bon Dieu, pourquoi est-ce compliqué de les épiler ?» Elles ne se sont peut-être jamais occupées des sourcils d'une noire, alors elles s'imaginent que ce n'est pas la même chose. Parce que nos cheveux sont différents après tout, mais je suppose que maintenant cette femme sait que nos sourcils ne sont pas différents. Kurt eut un rire moqueur, tendit la main pour prendre la sienne dans sa paume chaude. Au cocktail, il garda ses doigts mêlés aux siens. Des jeunes femmes en mini-robe, retenant leur souffle et leur ventre, se pressèrent pour lui dire bonjour et lui faire du charme, lui demandant s'il se souvenait d'elle, l'amie d'Ashley au lycée, la camarade de chambre d'Ashley à l'université. Quand Kurt dit « Je vous présente Ifemelu, mon amie », elles la regardèrent avec surprise. Une surprise que certaines dissimulèrent, d'autres pas, et dans leur expression se lisait la question « Pourquoi elle ?» Ifemelu s'en amusa. Elle avait déjà vu cette réaction chez des femmes blanches dans la rue, dont la mine, en voyant sa main dans celle de Kurt, s'assombrissait aussitôt, comme si elles étaient confrontées à une grande perte clanique. Ce n'était pas uniquement que Kurt soit blanc, c'était le genre de blanc qu'il était, avec sa chevelure blonde rebelle, son beau visage, son corps d'athlète, son charme chaleureux et l'odeur de l'argent qui flottait autour de lui. S'il avait été pauvre, pluvieux, gros, ordinaire, bizarre ou coiffé avec des dreadlocks, alors la chose eût été moins remarquable et les gardiens du clan apaisés. En outre, pour compliquer la situation, bien qu'elle soit jolie, elle n'était pas le genre de noir qu'on aurait pu, avec un effort, imaginer en sa compagnie. Elle n'était pas brun clair, elle n'était pas métisse. À cette réception, tandis que Kurt la tenait par la main, l'embrassait, la présentait à tout le monde, son amusement tourna à l'épuisement. Les regards avaient fini par la transpercer. Elle était même fatiguée de la protection de Kurt, fatiguée d'avoir besoin de protection. Kurt se pencha vers elle et murmura « Regarde cette femme, celle dont le bronzage artificiel est raté. Elle ne voit même pas que son crétin de Jules n'a pas cessé de te mater depuis notre arrivée. » Donc il avait remarqué et compris l'interrogation « Pourquoi elle ?» Elle s'en étonna. Parfois, dans le flot de ses démonstrations d'exubérance, il avait un éclair d'intuition, une surprenante perception, et elle se demandait s'il n'y avait pas chez lui d'autres traits essentiels qui lui échappaient. Comme lorsqu'il disait à sa mère, qui jeta un coup d'œil au journal du dimanche et grommelait que certains cherchaient encore des raisons de se plaindre, bien que l'Amérique ait abandonné la discrimination raciale. « Voyons, maman. » « Que dirais-tu si 10 personnes ressemblant à Ifemelu débarquaient ici pour déjeuner? Tu crois que nos autres convives seraient ravis ?»« Peut-être pas, » répondait sa mère d'un ton évasif, avec un haussement de sourcil accusateur en direction d'Ifemelu, comme pour dire qu'elle n'ignorait pas qui avait transformé son fils en un pathétique champion de la race. Ifemelu lui adressait alors un petit sourire victorieux. Et pourtant, un jour, ils rendirent visite à sa tante Claire dans le Vermont, propriétaire d'une ferme bio, qui marchait pieds nus en décrétant qu'ainsi elle avait la sensation d'être connectée à la terre. « Ifemelu avait-elle eu une expérience semblable au Nigeria ?» demanda-t-elle. Et elle eut l'air déçue quand Ifemelu lui dit que sa mère l'aurait giflée si elle avait osé sortir sans chaussures. Claire parla, tout au long de la visite, de son safari au Kenya, de la grâce de Mandela, de son adoration pour Harry Belafonte, et Ifemelu craignit qu'elle se mette à parler Ebonix ou Swahili. En quittant sa maison biscornue, Ifemelu dit « Je suis sûre qu'elle serait une femme intéressante si elle se bornait à être ce qu'elle est. Je n'ai pas besoin qu'elle insiste à ce point pour dire qu'elle aime les Noirs. » Kurt dit qu'il ne s'agissait pas de race, que sa tante était simplement hyper consciente des différences, de n'importe quelle différence. Elle se serait comportée exactement de la même façon si j'étais arrivée avec une ruse blonde. Non, sa tante ne se serait pas comportée de la même façon avec une ruse blonde. Une ruse blonde était blanche, et sa tante n'aurait pas eu besoin de prouver qu'elle aimait les gens qui ressemblaient à la ruse blonde. Mais Ifemelu n'en dit rien à Kurt, parce qu'elle aurait voulu que ce soit évident pour lui. Quand ils entrèrent dans un restaurant aux tables recouvertes de nappes et que le maître d'hôtel les regarda, et demanda à Kurt « Une table pour une personne ?» Kurt se hâta de dire à Ifemelu qu'il ne voulait pas le dire « comme ça ». Et elle aurait voulu lui demander « Que voulait-il dire d'autre ?» Quant à Montréal, la propriétaire de la maison d'hôte aux cheveux rouges fraises fit mine de ne pas remarquer sa présence au moment où il s'enregistrait, ne regardant et ne souriant qu'à Kurt, elle aurait voulu dire à Kurt à quel point elle se sentait blessée. surtout parce qu'elle ne savait pas si la femme n'aimait pas les Noirs ou si Kurt lui plaisait. Mais elle n'en fit rien, craignant qu'il rétorque que sa réaction était exagérée ou qu'elle était fatiguée, ou les deux. Il y avait simplement des moments où il voyait et des moments où il était incapable de voir. Elle savait qu'elle aurait dû lui faire part de ses pensées, que les terres jetaient une ombre sur eux deux. Pourtant, elle choisit le silence. Jusqu'au jour où ils se disputèrent à propos de son magazine. Il avait pris un exemplaire d'Essence dans la pile posée sur la table basse, un des rares matins où ils étaient chez elle, l'air rempli de l'odeur des omelettes qu'elle venait de préparer. « Ce magazine a une tendance raciste, » dit-il. « Quoi ?»« Réfléchis, il ne montre que des Noirs. »«
Tu es sérieux ?»
Il eut l'air perplexe.
« Ouais ?»«
Viens avec moi à la librairie. »
« Quoi ?»«
Il faut que je te montre quelque chose. Ne pose pas de questions. »«
D'accord, »
dit-il, incertain de ce qu'il attendait, mais impatient avec ce plaisir enfantin naturel de participer. Elle l'emmena à la librairie de Inner Harbor, prise sur le présentoir des exemplaires des différents magazines féminins, et se dirigea vers le café. « Tu veux un café au lait ?» demanda-t-il.
« Oui, merci. »
Lorsqu'ils se furent installés, leur gobelet en carton devant eux, elle dit « Commençons par les couvertures. » Elle étala les magazines sur la table, les uns posés sur les autres. « Regarde, toutes ces femmes sont blanches. Celle-ci est censée être hispanique, on le sait parce qu'ils ont écrit deux mots en espagnol. Mais elle ressemble exactement à cette femme blanche. Même couleur de peau, même coiffure, même trait. Maintenant, je vais les feuilleter, page par page, et tu vas me dire combien tu vois de femmes noires.
« Allons, chérie, » dit Kurt, amusé, s'inclinant en arrière, portant son gobelet à sa bouche.
« Fais-moi plaisir, »
dit-elle.
Il compta. Trois noirs, dit-il finalement, voire quatre. Celle-ci pourrait être noire. Donc, trois noires dans peut-être 2000 pages de magazines féminins. Et toutes métisses, ou d'une race indéfinie. Elles pourraient être indiennes ou portoricaines, ou n'importe quoi. Aucune n'a la peau sombre. Aucune ne me ressemble. Donc je ne peux pas prendre exemple sur ces magazines pour me maquiller. Regarde. Cet article dit se pincer les joues pour y amener plus de couleurs parce que toutes les lectrices sont supposées avoir des joues que l'on peut pincer pour les colorer. Cet autre parle de différents produits capillaires qui conviennent à tout le monde. Et tout le monde veut dire blonde, brune et rousse. Je ne suis aucune de celles-là. Celui-là décrit les meilleurs après-shampoings pour les cheveux lisses, ondulés et bouclés, pas crépus. Tu vois ce qu'ils entendent par bouclés ? Je ne pourrais jamais m'en servir pour mes cheveux. Ici, il parle d'harmoniser le fard à paupières avec la couleur des yeux bleus, verts ou noisettes. Mais j'ai les yeux noirs. Comment savoir quel fard me convient? Là, ils disent que ce rouge à lèvres rose est universel. Mais ils veulent dire universel à la condition d'être blanche. Parce que j'aurais l'air d'une Barbie noire si j'essayais cette nuance de rose. Oh, regarde, il y a un progrès. Une publicité pour un fond de teint. Il existe 7 nuances différentes pour les peaux blanches et une nuance générique couleur chocolat. Mais c'est un progrès. Maintenant, parlons de ce qui est raciste ou non. Tu comprends pourquoi un magazine comme Essence a une raison d'être?
Ok, chérie. Ok. Je ne voulais pas en faire une telle affaire.
Ce soir-là, Ifemelu écrivit un long email à Wambui à propos de la librairie, des magazines, de ce qu'elle ne disait pas à Kurt, de ce qui restait non-dit, inachevé. C'était un long email qui analysait, questionnait, approfondissait. Wambui répondit en disant « C'est tellement direct et vrai. Il faudrait que davantage de gens le lisent. Tu devrais commencer un blog. » Les blogs étaient quelque chose de nouveau pour elle. Mais raconter à Wambui ce qui se passait ne la satisfaisait pas entièrement. Elle rêvait d'avoir une autre audience. Elle rêvait de connaître les histoires des autres. Combien étaient-ils à avoir choisi le silence? Combien étaient devenus noirs en Amérique? Combien d'entre eux avaient l'impression que leur existence était recouverte d'un voile de brume? Elle rompit avec Kurt quelques semaines plus tard et s'inscrivit sur WordPress. Son blog était né.
Elle en changerait le nom plus tard, mais au début, elle l'appela Raistinth, ou quelques observations intéressantes sur la négritude en Amérique par une noire non américaine. Son premier poste fut une version mieux ponctuée de l'email qu'elle avait envoyé à Wambui. Elle mentionnait Kurt sous l'appellation de l'ex-blanc sexy. Quelques heures plus tard, elle vérifia les statistiques de son blog. 9 personnes l'avaient lu. Prise de panique, elle le désactiva. Le lendemain, elle l'activa de nouveau, modifié et révisé, terminant par des mots dont elle se souvenait encore. Elle les récitait à présent, à la table du couple franco-américain, pendant que la poétesse haïtienne la contemplait, les bras croisés. La solution la plus simple au problème de la race en Amérique ? L'amour romantique, pas l'amitié, pas le genre d'amour sûr, superficiel, dont l'objectif est de préserver le confort des deux personnes, mais le véritable amour romantique profond, celui qui vous affole et vous laisse pantelant, qui vous fait respirer à travers les narines de votre bien-aimé. Et parce que cet amour profond est si rare, parce que la société américaine est organisée de manière à le rendre encore plus rare entre noirs américains et blancs américains, le problème de la race en Amérique ne sera jamais résolu. « Oh, c'est une histoire merveilleuse !» dit l'hôtesse française, portant les mains à sa poitrine d'un geste théâtral, regardant autour de la table comme si elle cherchait une réaction. Mais tous restèrent silencieux, détournant les yeux, embarrassés. Appel à Michelle Obama. Les cheveux comme métaphore de la race. Mon amie Blanche et moi sommes deux groupies de Michelle Obama. Aussi l'autre jour, lui ai-je dit, je me demande si Michelle Obama a des extensions. Ses cheveux paraissent plus fournis à présent, et les passer au fer tous les jours doit sacrément les abîmer. Et elle me répond, tu veux dire que ses cheveux ne poussent pas naturellement de cette façon? Donc, est-ce une erreur de ma part, ou n'avons-nous pas ici la parfaite métaphore de la race en Amérique? Les cheveux. Avez-vous remarqué qu'à la télévision, dans les émissions sur les soins de beauté, les Noirs ont des cheveux naturels, rêches, enroulés, crépus ou frisés, sur la vilaine photo avant, et sur la flatteuse photo après, quelqu'un a pris un instrument en métal brûlant et lissé leurs cheveux? Certaines femmes noires, américaines et non américaines, préféraient se promener nues dans la rue que d'être vues en public avec leurs cheveux naturels. Parce que voyez-vous, ce n'est pas professionnel, sophistiqué, ce que vous voudrez, ce n'est simplement pas normal. S'il vous plaît, les commentateurs, ne me dites pas que c'est la même chose pour les femmes blanches qui ne se teignent pas les cheveux. Quand vous avez vraiment des cheveux naturels de femmes noires, les gens pensent que vous y avez fait quelque chose. En réalité, celles qui ont des cheveux afro ou des dreadlocks sont celles qui n'ont rien fait à leurs cheveux. Vous devriez demander à Beyoncé ce qu'elle a fait. Nous aimons tous Bey, mais pourrait-elle nous montrer juste une fois à quoi ressemblent ses cheveux lorsqu'ils poussent sur son crâne ? J'ai naturellement les cheveux crépus, que je les coiffe en tresses collées, en afro ou en natte. Non, ce n'est pas pour des raisons politiques. Non, je ne suis pas artiste, poète ou chanteuse, pas plus qu'une mère nature. Simplement, je ne veux pas mettre de défrisant. Je suis déjà exposée dans ma vie à suffisamment de risques de cancer. En passant, pourrait-on interdire les perruques afro à Halloween ? L'afro n'est pas un déguisement pour l'amour du ciel. Imaginez que Michelle Obama en ait assez de ses fers à défriser, décide de revenir à ses cheveux naturels et apparaisse à la télévision avec une masse de cheveux laineux ou des boucles serrées. On ne peut pas prévoir quelle en sera la texture. Il est courant qu'une femme noire ait 3 différents types de textures sur la tête. Elle serait hallucinante. Mais le pauvre Obama perdrait sûrement le vote des indépendants et même celui des démocrates indécis. Mise à jour. Zora Neal 22, qui revient à la coiffure naturelle, m'a demandé de poster ma méthode. Du beurre de karité pur en guise de baume démêlant convient à beaucoup de cheveux naturels, mais pas à moi. Le beurre de karité rend mes cheveux grisâtres et secs. Et les cheveux secs, c'est mon plus gros problème. Je les lave une fois par semaine avec un shampoing hydratant sans silicone. J'utilise un démêlant hydratant. Je ne les sèche pas avec une serviette. Je les laisse mouiller, les divise en sections et applique un baume crémeux. Mon préféré pour le moment est le Kemet Biologics.
Les autres sont Oyin Handmade, Shea Moisture, Basque Beauty et Darcy's Botanicals. Puis je sépare mes cheveux en 3 ou 4 grosses tresses plaquées et noue mon foulard de satin. Le satin est préférable, il conserve l'humidité tandis que le coton l'absorbe. Je me couche. Le lendemain matin, je défais les tresses et voilà. J'ai une ravissante afro légère et mousseuse. Le truc est d'ajouter le produit sur des cheveux humides. Et je ne les peigne jamais, jamais lorsqu'ils sont secs. Seulement quand ils sont mouillés ou humides ou totalement imbibés d'hydratants. Cette formule peut même s'appliquer à nos amies blanches frisées qui sont fatiguées des fers à défriser et des traitements à la kératine. Y a-t-il des noires américaines ou non américaines avec des cheveux naturels qui veulent nous faire partager leur méthode ?